Les voies de service, mercredi le 20 février 2019. Bonjour tout le monde, ici Daniel Lachance au micro de Canal M pour les voies de service. Je suis avec mon collègue Serge Bradet. Bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien aujourd'hui?
Très bien.
Malgré le petit matin frisquet un peu de février.
Oui. Mais c'est agréable marcher dans le froid le matin.
Oui, sur la glace.
Oui, non, ben, la glace, on s'en passe ça. Oui. Ça prend des crampons.
Oui, ça prend des crampons. Puis ce matin, on voyait une belle grosse lune, la Snow Moon.
Ben oui, j'ai pas vu ça, moi.
Moi, de l'endroit où j'étais, où j'attendais le bus, on la voyait très bien. Et bonjour Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde, vous allez bien?
Je vais fort bien, comme mon teint le transparaît ce matin.
Un peu de fatigue accumulée de ce temps-là. Donc Serge, de quoi allons-nous parler ce matin?
Je vais vous parler d'un sujet, je suis sûr que Jean-Sébastien et vous Daniel, ça vous a déjà empêché de dormir.
Savoir... le bruit, non?
Non, savoir qui a inventé le macaroni au fromage.
Ah oui, ça me... Oui.
Ça explique le visage que j'arbore aujourd'hui. J'ai pensé à ça toute la nuit.
Voilà. Et deuxième sujet, je vais vous parler de Molson.
Ah oui, bon.
Oui, ça va être une chronique, celle-là, historico-futuriste, on dirait.
Historico-futuriste aussi.
Oui, parce que c'est ce qu'on va faire, on projette de faire dans le plan Molson, dans la brasserie qui a été vendue.
Oui, qui va déménager.
Là, il y a différents plans qui sont soumis. Mm-hmm. Je trouvais ça intéressant.
Bon. Et moi, de mon côté, eh bien, en première partie, je vais vous parler de deux chanteuses connues internationalement, deux sujets différents, et voilà, on vous revient dans quelques secondes. Donc Serge, nous allons maintenant élucider le mystère, pas de la caramel, mais du macaroni au fromage. C'est presque aussi important finalement.
Est-ce que vous risqueriez une réponse? Qui a inventé le macaroni au fromage? Risqueriez-vous une petite réponse?
Ah, je ne sais même pas si le fromage a été inventé avant le macaroni, donc ça, je suis un peu embêté.
Alors, ben, les Américains, les Suisses, les Italiens, c'est difficile à dire.
On serait porté à penser les Italiens, parce que les pâtes en général,
petite surprise dans la chronique. Ouais. Ouais. Ah. Aussi bien demander qui fut la première personne à traire une vache et à cultiver un blé. Oh. C'est assez loin. Chose certaine, de nos jours, le mac and cheese est indissociable de la cuisine nord-américaine. Une infinité de versions. Il y a un restaurant qui s'appelle le Nouveau Palais sur l'avenue Bernard à Montréal. Mm-hmm. Et je pense que je vais y aller. Alors, au Nouveau Palais de l'avenue Bernard, ça grouille d'enfants les soirs de semaine. Du macaroni au fromage, la cuisine en prépare chaudron sur chaudron pour nourrir toutes ces petites et grandes bouches qui apprécient la simplicité bien crémeuse de la recette. Ici, pas d'ajout funky, pas de fromage gratiné, que des nouilles et une sauce tout en douceur. À ma demande, on offre la possibilité d'ajouter des champignons sautés ou du bacon, admet Jacques Séguin, copropriétaire. Notre amour collectif du macaroni au fromage, amour collectif.
Collectif, il faut le souligner.
A généré un nombre infini de versions, comme on a pu voir, entre autres, à la récente, ça là, j'avais jamais entendu parler, la récente Mac and Cheese Week de Montréal.
Ah, c'est nouveau ça, ou ça fait longtemps que ça existe? C'est quand la Mac and Cheese, faut que c'est libéré, ça?
Je pense que
la semaine passée, il y a eu la Poutine Week, le Mac and Cheese,
je savais pas moi non plus.
Alors, avait-on besoin de beignes au macaroni et porc effiloché, de macaroni poulet au beurre et d'un sandwich de macaroni PB, beurre d'arachide et confiture?
Ouf.
C'est sûr que le but de la semaine du macaroni est de repousser les limites du plat, confirme en rigolant Pascal Salzman, fondateur de l'événement. Mais dans son camion de cuisine de la rue, le Cheese Truck, et dans son restaurant de l'avenue Monklin, c'est le classique qui se vend le plus, et c'est celui qui lui rappelle la recette de sa maman, mitonnée à partir d'une méchabelle baison. Un peu d'histoire, allons-y. Dans les Alpes suisses, on peut manger... Lappler ma Gronen.
Ah ben oui.
Oui. Macaroni du berger ou macaroni à la montagnarde aux gruyères. Servi avec des oignons caramélisés et de la compote de pommes.
Ah, quand même.
Belle recette, hein? On y trouve aussi parfois des lardons et des pommes de terre. En Italie, les plats contenant pâte et fromage abondent, évidemment. Que ce soit le classique cacio e pepe, la riche sauce aux quatre fromages, le spaghetti carbonara, et beaucoup d'autres. Les historiens culinaires s'entendent sur une chose. Ce n'est nul autre que Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, qui est responsable d'avoir répandu l'amour de la pâte coudée en territoire nord-américain. Il était ambassadeur en France de 1785 à 1789. Ce foodie, avant l'heure, s'était épris de plusieurs traditions culinaires d'Europe. À son retour en terre américaine, Thomas Jefferson aurait fait venir une presse pour faire des macaronis, eux-mêmes originaires de la région qui est aujourd'hui le canton du Tessin, en Suisse italienne. On dit qu'il a servi du macaroni au fromage au cours d'un repas d'État en 1802. Une première recette américaine de ce plat a été incluse dans le livre de Mary Randolph, The Virginia Housewife, en 1824. Elle contenait trois ingrédients, macaroni, fromage, beurre.
À peu près comme notre pâté chinois. Ouais. Trois ingrédients, facile à retenir. Ouais.
La naissance d'une icône. C'est à la recette, à la sortie du... K. Ça commence par K.
Oui, la compagnie.
Non, K. Kraft.
Ah. Oui, oui.
Kraft Dinner.
Kraft Dinner, effectivement.
En 1937, que le macaroni au fromage est devenu un vrai de vrai classique américain et canadien. De ce côté-ci de la frontière, on mangerait 55 % de plus de Dinner Kraft, soit 3,2 boîtes par année par habitant que nos voisins du Sud.
Ah.
Ouais. Et saviez-vous qu'environ 106 millions de sachets de fromage en poudre et de portions de nouilles sont produits ici même dans l'usine Kraft Heinz de Mont-Royal? Et ce n'est pas James Lewis Kraft qui a inventé le Dinner Kraft, mais un de ses vendeurs dans la ville de Saint-Louis au Missouri. Celui-ci a eu la brillante idée d'attacher un paquet de fromage transformé et une boîte de pâte avec un élastique et de convaincre ses clients...
D'acheter les deux choses en même temps.
Oui, de vendre les deux articles ensemble. Le monde était plongé en pleine grande crise économique des années 30. Une boîte de Kraft Dinner pouvait nourrir une famille de quatre personnes pour environ 19 sous.
D'où la popularité.
Américain, oui. Mm-hmm. Et se conservait au garde-manger pendant 10 mois, à une époque où bien des foyers ne possédaient pas encore de réfrigérateur. Mm-hmm. Alors, fait intéressant que l'on apprend dans un article du magazine de Walrus, publié en 2012, les chimistes ont tout fait pour que le goût du Dinner Kraft reste le même depuis 75 ans, mais sa composition a néanmoins changé radicalement. Les premières sauces ne contenaient que du fromage et des sels émulsifiants. Le besoin de produire une denrée au plus faible coût possible a forcé l'industrie à développer des succès d'année. Sous le couvert de l'anonymat, un scientifique a estimé à environ 29 % la quantité de fromage contenue dans la pochette. Le reste, beaucoup de petits laits, du sel, des arômes, de l'amidon, etc. Alors voilà.
Mais le goût reste inchangé, donc.
Oui.
Donc, je vous avais dit qu'on parlerait de deux chanteuses. Mm-hmm. La première dont je vais vous parler, c'est Amy Winehouse, qui est décédée il y a quelques années déjà. Un article que j'ai trouvé dans lefigaro.fr, qui est paru le 19 février. Mon Dieu, c'est hier, ça? Il me semble que c'est fait. C'est assez récent, hein?
Ça, ouais.
Pas mal à jour, quand même. Donc, le titre de l'article, Amy Winehouse, son producteur bricole un duo posthume avec le rappeur Nas. Salam Rémy, collaborateur de longue date de la Diva, a partagé Find My Love, un morceau élaboré à partir d'un vieil enregistrement de la Reine de la Soul et des rimes du chanteur. La chanson est issue de la compilation Do It for the Culture 2, apparaître prochainement. 8 ans après sa mort, je le dis une couple d'années tantôt, c'est quand même 8 ans déjà qu'elle est décédée, sa voix résonne encore. Un nouveau morceau sur lequel on entend le timbre d'Amy Winehouse, décédée d'une overdose médicamenteuse en 2011, vient de faire surface. Son producteur de toujours, Salam Rémy, a dévoilé vendredi le titre « Find My Love », collaboration bricolée entre la chanteuse, et le rappeur Nas. La chanson est tirée de la compilation « Do It for the Culture » à paraître prochainement. Salam Rémy a exploité un vieil enregistrement de la Diva de la Soul sur lequel il a ajouté les rimes du rappeur au son d'une guitare jazzy, le tout ponctué des cris langoureux d'Amy Winehouse. Selon une information du média américain Pitchfork, la partie vocale de la chanteuse aurait été enregistrée lors d'une session en studio à la période où elle travaillait avec le producteur sur ses albums Frank et Back to Black. En passant, pitchfork, savez-vous en français ce que ça veut dire?
Non. Regardé. Non.
Parce que je sais ouais. que quand on regarde juste le mot, des fois, si on sépare le mot en deux, pitchfork, pitch, c'est pour la tonalité, fork, c'est une fourchette. En français, c'est un diapason. Tu sais, en forme de. En forme de, fourchette. Là. Bon, diapason, en anglais, appelle ça un pitchfork parce que ça ressemble à une fourchette. Bon, voilà. Et c'est fin de la parenthèse. Si ce duo peut paraître opportuniste, Rémi se réjouit d'avoir réuni une nouvelle fois les deux interprètes. Travailler avec des amis est ce qu'il y a de mieux quand on est un artiste. Nas et Amy étant mes deux partenaires créatifs les plus proches depuis des années, cette chanson sera le premier titre de ma collection « Do it for the culture too », a-t-il déclaré dans un communiqué. Find My Love est loin d'être la première collaboration entre ces deux artistes proches qui se considéraient comme des frères et sœurs, selon Culture Box. Et les deux, tous les deux sont nés le 14 septembre. La chanteuse avait enregistré plusieurs morceaux avec Nas, parmi lesquels Like Smoke, sorti sur son album posthume Lioness Hidden Treasures, et l'année suivante, le décès de la diva, le rappeur avait dévoilé le titre Cherry Wine, sur lequel on reconnaissait le timbre unique de l'interprète de Rehab. De son vivant, Amy Winehouse avait rendu hommage au rappeur de son vrai nom Nasir bin Oludara Jones. C'est comme plusieurs noms, finalement.
Quelle origine?
Je ne sais pas. Britannique.
Ouais, ouais.
Dans la chanson Me and Mr. Jones sur son second album. Voilà.
Bye.
deuxième extrait de son deuxième album, Back to Black, Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Petite anecdote, ce n'était pas une pièce qui a été produite par Salam Remy, tel que mentionné dans l'article. Non. Ça, c'est une autre collaboration qu'elle a faite avec Mark Ronson, qui lui est associé, entre autres, à Adele. Je pense que une des plus grosses chansons à laquelle on peut l'associer dans les dernières années, c'est Uptown Funk, avec Bruno Mars. Mm-hmm. Donc, un autre producteur avec une bonne notoriété.
Assez solide quand même, ouais.
Oui.
Ben, merci Jean-Sébastien. Et Serge, on continue avec...
Oui, j'ai oublié de donner ma source
De l'article tantôt.
Oui. Alors, c'était la Presse Plus de samedi, le 16 février, Ève Dumas.
OK.
Voilà. Alors, j'ai réparé mon
oui, c'était oubli. Important.
Oui. Alors, maintenant, dans la presse de dimanche, un article de Suzanne Colperon, dimanche 17 février, sur Molson.
Mm-hmm.
Alors, sur ce qu'on pense de faire avec Molson, avec
le terrain,
l'édifice, tout ça. Oui. D'ailleurs, bon, quelques dates en commençant pour nous situer là, pour les Molson. L'Anglais John Molson arrive dans la province de Québec en juillet 1782 à l'âge de 18 ans. Il s'associe à Thomas Lloyd en 1783, donc à 19 ans. Il était vite en affaires, là, monsieur. Ce monsieur Lloyd possède une petite brasserie dans le Faubourg Québec. Il prend la direction de la compagnie en 1786, c'est rapide. En 1836, John Molson meurt à Boucherville et son petit-fils John Henry Robinson hérite des établissements de la brasserie. En 1838, une partie des installations sont détruites par les flammes avant d'être construites et modernisées. En 1852, le 6 juillet 1852, un nouvel incendie endommage 1200 bâtiments du Faubourg Québec, dont 6 maisons et l'église appartenant à Thomas, l'un des trois fils de John Molson. 1911, l'entreprise familiale devient publique. 1949, la vente annuelle de bière atteint 21 millions de gallons en 1949, 41 millions de gallons en 1953 et 100 millions de gallons en 1971. En 1996, ouverture du Centre Molson, Centre Bell aujourd'hui, et 2005, fusion avec la brasserie américaine Coors. Molson Coors était le troisième, en 2005, le plus grand brasseur de bière au monde.
Au monde.
Et le 5 juillet 2017, la société annonce son intention de déménager ses installations sur la rive sud de Montréal. Alors, dans cette pour ce sujet de déménager, évidemment, ben, si on déménage, qu'est-ce qu'on va faire avec
les installations?
Le terrain,
oui, c'est quand même, c'est vrai.
Alors, après 230 années d'activité sur les berges du Saint-Laurent, la brasserie Molson s'apprête à déménager sur la rive sud. Qu'adviendra-t-il de ces vieilles installations sur lesquelles trône le nom de Molson en grosse lettre blanche? Eh bien, l'acheteur privilégié, le groupe Sélection, l'a acheté, mais on ne connaît pas ses intentions. Histoire de l'inspirer et de nourrir la discussion, des étudiants de l'École d'architecture de l'Université de Montréal ont repensé les lieux.
Mm-hmm.
Alors, ce dont on nous parle dans l'article. Tout d'abord, le site de l'usine Molson est immense. Il occupe une superficie de 12 hectares, soit environ 1,3 million de pieds carrés, entre les rues Papineau, Notre-Dame, de la commune et les berges du fleuve, parce que c'est vraiment sur le bord du fleuve.
D'ailleurs, quand on est sur le pont Jean-Cartier, on voit très bien Molson. Mm-hmm.
Fait signaler, les étudiants n'ont pas eu accès au site ni au bâtiment. Alors, comme l'explique Anne Cormier, professeure à l'École d'architecture de l'Université de Montréal, à l'origine du projet avec Google Earth et Google Maps, on peut comprendre et déduire des choses même sans avoir des plans. Premièrement, on pense à un hôtel dans des silos.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup d'hôtels. Radio-Canada va en avoir. En tout cas, il y a bien des hôtels à Montréal maintenant qui se construisent. Les terrains de la brasserie ont été divisés en 6 lots pour les besoins de l'exercice. Alors, Anthony Harvey a hérité de la portion historique à l'extrémité est près du pont Jacques-Cartier, où se dresse le premier bâtiment de la brasserie Molson, érigé en 1786. Alors, le site comprend aussi un immense entrepôt de bière construit dans les années 20. On pense à faire un hôtel avec, évidemment, salle de réception, restaurant, bar, dans les 8 silos. Alors, c'est un autre projet, une école brassicole.
Oui, pourquoi pas.
Ah ben oui, pourquoi pas. Hein? Une école de formation brassicole, c'est ce que propose Hakim Lairitini Desjardins, qui a travaillé sur le lot central du site. L'étudiant conseille de démolir la partie intérieure du bâtiment de briques rouges, surmontée des lettres Molson, pour y aménager un grand campus regroupant des activités de formation professionnelle et des commerces axés sur l'industrie brassicole. C'est intéressant. Un édifice artisan. De son côté, Paloma Castonguay-Ruffino propose de faire des ateliers artisanaux dans les trois édifices mitoyens situés entre la partie ancienne et la partie plus récente de l'usine, parce qu'il y a une partie plus récente qui a été construite. Alors, posez-vous la question, savez-vous où se trouvent les lieux de travail manuels dans votre ville, demande l'étudiante. Constatez l'évidence, les ateliers sont une denrée rare en milieu urbain, ça c'est vrai. Et sa proposition consiste à réunir sous un même toit une multitude d'artisans qui travaillent à leur compte, des ébénistes, des bijoutiers, des menuisiers, maçons, céramistes, antiquaires, cordonniers. Monument 20. Autre idée intéressante, la construction d'un hôtel moderne de 20 étages pour pallier l'omniprésence de bâtiments monotones sans relief le long des berges, à l'ouest des terrains de la brasserie. Andrea Damos estime que le coin de la ville manque d'activité humaine parce que l'environnement y est peu invitant. Son projet de complexe hôtelier, revêtu de panneaux d'acier inox appelé Monument 20, comporte un observatoire vitré accessible au public aux étages supérieurs. Ce lieu permet au public de contempler le pont Jacques-Cartier et le Mont-Royal depuis un point de vue inédit, fait-il valoir. L'observatoire affirme le contexte spécifiquement montréalais du Monument 20. Un marché public.
Oui. Pourquoi pas aussi.
La proposition de Rémi Léonard, elle, consiste à créer un marché public à l'ouest du site, entre la rue Panet et l'ancien entrepôt frigorifique, en réhabitant l'ancien tunnel Brock, fermé dans les années 70. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le voir, le tunnel Brock. Pour reconnecter le quartier Saint-Jacques au Saint-Laurent. Ce tunnel, faisant 208 mètres de long, a été construit à la fin du 19e siècle. On le surnommait le tunnel Baudry parce qu'il était le prolongement de la rue du même nom. Dans le marché public imaginé par Rémi Léonard, il y a des légumes cultivés sur place, une microbrasserie, on en revient toujours à ça, une fromagerie, charcuterie, boulangerie, etc. Un centre sportif. Sur la dernière portion du site comprenant à la rue Notre-Dame, des bâtiments de l'usine Molson, l'ancien entrepôt frigorifique et le Faubourg Québec, Kevin Pelletier suggère de créer un centre sportif. Patinoire, gymnase, triple piscine, piste de course de 150 mètres, terrain de basketball pouvant servir d'amphithéâtre. Peut-être le nouveau stade pour le football, le baseball, là. Je suis pas un grand sportif.
Non.
Je suis content qu'il y ait quelqu'un comme
on n'embarquera pas là-dedans. Ouais.
Le développement récent de plusieurs tours de condos dans le secteur des faubourgs, ainsi que le réaménagement des sites de Radio-Canada et de Molson risque de repeupler ce secteur du centre-sud et ainsi augmenter la demande en équipement sportif. Carte blanche, inscrit au programme de 12e cycle de l'École d'architecture de l'Université de Montréal, les étudiants qui ont participé à cet exercice avaient carte blanche. On les a laissés rêver, mais rêver de façon structurée, nuance le professeur Anne Cormier. Certains projets sont près de la réalité, d'autres plus utopiques, mais dans un cas comme dans l'autre, ils peuvent alimenter la discussion. En avril, l'Office de consultation publique de Montréal tiendra des audiences pour réfléchir au sort des installations de Molson et à l'avenir de l'Est du centre-ville. Et ce qui est intéressant à savoir en terminant, c'est qu'en novembre 2018, la Ville de Montréal s'est voté un droit de préemption sur les lots de la brasserie qui lui permet d'égaler une éventuelle offre d'achat pour accueillir les terrains. Donc, c'est un contrat, on dit, bon, on s'est entendu pour 6 millions de dollars, puis on signe le contrat, la Ville arrive, elle dit, bon, ben moi, j'offre le même montant et ça va à la Ville.
Ben, merci beaucoup, Serge. Donc, je vous parle d'une autre chanteuse très connue de chez nous ici, même si elle est internationale. Céline Dion, son agent la poursuit en justice pour une affaire de commission non payée. Et ça, j'ai pris ça dans lefigaro.fr, un article paru le 15 février. La diva canadienne refuserait de verser une partie des revenus récoltés grâce au contrat signé par son agence artistique en 2017. La belle était pourtant représentée depuis 30 ans par Rob Prince, co-gérant de l'entreprise, à qui elle doit notamment l'accord historique de sa résidence au Caesars Palace à Las Vegas. Elle chantait « Ne plus vouloir être by myself » en 1996, et 20 ans plus tard, son agence lui tourne le dos. Dans une note interne obtenue par le média américain Billboard, la diva canadienne est accusée par sa propre agence artistique, la ICM Partners, de ne plus payer ses commissions malgré les accords signés à ce sujet. Pardon. Appelée à en répondre devant la justice, la chanteuse perd dans le même temps le soutien de l'homme qui défendait ses intérêts en tant qu'artiste depuis le début de sa carrière.
Elle dit « Comme plusieurs d'entre vous le savent, Rob Prince a représenté Céline Dion depuis plus de 30 ans, incluant le contrat sans précédent de 500 millions de dollars, quand même, qui lui a valu de se produire sur scène pendant plusieurs années et qu'elle a signé en 2017, explique la note interne d'ICM Partners. Malheureusement, Mme Dion refuse de payer le reste des commissions et qu'elle doit à l'agence en lien avec ce contrat historique. » Le fameux contrat au centre de la polémique est, au-delà de la somme immense qu'il a engagée, à l'origine d'un véritable tournant dans l'industrie musicale américaine, mené par Rob Prince aux côtés du défunt mari et manager de Céline Dion, René Angélil. L'accord a signé la renaissance du Caesars Palace de Las Vegas. Il n'était alors plus question de concerts, mais de véritables performances théâtrales entre innovation artistique et technologie à la pointe. Avant qu'elle n'y débute sa résidence de 2003 à 2007, Las Vegas était devenue une sorte de cimetière d'éléphants pour les artistes en fin de carrière. Ils y allaient pour mourir, expliquait l'agent artistique. Il se croit un peu, là. Expliquait l'agent artistique aux journalistes de Billboard en octobre 2016. Maintenant, grâce à lui, j'imagine, maintenant tout le monde veut une résidence à Las Vegas. C'est incroyable à quel point Céline Dion et cet accord ont transformé le marché. L'interprète de My Heart Will Go On célébrait alors son 1000e concert dans la cité du Nevada dans le cadre de sa seconde résidence lancée en 2011 et qui devrait se terminer en juin prochain. À la fin de l'année 2020, le biopic Famous dédié à la vie de Céline Dion et réalisé par Valérie Lemercier devait sortir au cinéma. Le temps pour l'icône internationale de sortir ce nouvel album qu'elle plébiscitait déjà en septembre dernier. Et de se trouver une autre agence artistique pour qu'on l'aime encore. Mais Céline Dion a répondu à cet article-là quelques jours après. Elle dit qu'elle est triste et déçue. Elle ne compte pas se laisser faire. Sur le banc des accusés, dans un message partagé sur les réseaux sociaux, la chanteuse a démenti les allégations portées à son encontre par ICM Partners. Voilà. Donc, c'est à suivre. Donc, c'est ce qui met fin à la première partie de l'émission Les Voix de service du mercredi 20 février. Oui, oui. On vous revient dans quelques instants avec d'autres articles. Nous sommes de retour avec la deuxième partie de l'émission Les Voix de service avec Serge Bradet, Daniel Lachance et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Et Serge, dans la deuxième partie, de quoi allons-nous parler?
Ben, je réalise qu'aujourd'hui, finalement, je vous parle de bouffe puis de boisson.
Bon.
Ben, de boisson, Maudson, non, mais... Alors, deuxième partie, aimeriez-vous goûter au plus vieux pain qu'on a retrouvé?
Non, je ne pense pas.
Non, il date de bien longtemps.
Il faut avoir très faim.
Oui.
On parle, on parle de la recette ou on parle de le pain lui-même?
Le pain original, il est encore...
Je vais passer.
Ouais. Ah, je vais passer. Ouais,
si même les bébites ne l'ont pas mangé, je pense que...
Et ensuite, l'histoire de la pomme.
Ah, oh, c'est ça peut-être plus. Malgré qu'il y a un mauvais souvenir avec cette histoire-là.
On recule Adam et Ève.
On est rancunier un peu, là, mais Ève, on l'a de travail à cause de ça. Et bien, moi, je vais vous parler d'un producteur très célèbre et aussi d'un chanteur qui est décédé il y a plusieurs années et qui va publier, un album de ce chanteur-là qui va être publié bientôt. Mm-hmm. Donc, on parle de pain.
Oui.
Oui.
Oui, alors. Donc, c'est un article de Marion Guyot. J'ai de la misère avec son nom chaque semaine. Guyot Varc, elle écrit des bons articles, alors c'est intéressant. Alors, c'est en décembre 2018 dans la revue Ça m'intéresse, histoire. On a retrouvé le plus vieux pain de l'histoire. Lors de fouilles menées en 2012 et 2015, dont les résultats n'ont été publiés qu'en juillet 2018, sur le site archéologique de Shubaika 1, au nord-est de la Jordanie, une équipe met au jour des restes de nourriture carbonisés dans un foyer. Après analyse et datation au carbone 14, aucun doute, il s'agit de miettes de pain vieilles de roulement de tambour, 4400 ans.
On est capable de dater quelque chose de brûlé.
Apparemment, apparemment. Bon. Avec okay. la science, hein?
Oui. Non, on veut y croire. Ouais,
quand on pense tout ce qu'on fait avec l'ADN, là,
ouais,
qu'on
fait, effectivement.
On peut remonter, on peut trouver si vous descendez de Gengis Khan ou de... Stupeur, les chercheurs viennent de dénicher le plus vieux pain du monde. Jusqu'alors, les scientifiques étaient persuadés que le pain était né d'environ 4000 ans plus tard. Bon, c'est quand même plus...
Déception, ben, hein, oui, ben. Quand même.
C'est-à-dire vers 8500 avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Bon. Au sein des premières sociétés sédentaires, celles qui ont développé l'agriculture. Dans le croissant fertile, des homo sapiens se seraient mis à cultiver du blé et de l'orge. Certaines années, ils se seraient retrouvés avec un trop-plein de grains et ils auraient naturellement commencé à faire du pain. C'est le récit communément admis. Sauf que les miettes trouvées à Chubaïka 1 balaient complètement cette théorie. Le pain est donc apparu chez les chasseurs-cueilleurs dès la fin du Paléolithique, bien avant que les hommes ne se sédentarisent et ne cultivent des céréales. Il y a donc eu des boulangers avant des agriculteurs.
Curieux quand même.
Oui. Notre étude montre clairement, ben c'était pas le pain doré, puis
non,
sont bons, entendons-nous là-bas.
Il n'y avait pas de croissant encore.
Non. Notre étude montre clairement que la fabrication du pain est antérieure à la culture des plantes, explique Tobias Richter, chercheur à l'Université de Copenhague et coordinateur de l'étude publiée dans la revue médicale PNAS. Le pain précède donc l'agriculture. C'est peut-être même la volonté de manger plus fréquemment ce nouveau type d'aliment qui aurait poussé les hommes à tenter de cultiver des céréales.
Oui, c'est logique, dans le fond.
Qui sont donc ces premiers boulangers de l'histoire? Ce sont les Natufiens, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivaient sur ce site, répond Tobias Richter. Véritables pionniers, ils ont été les premiers à construire avec de la pierre, ont domestiqué le chien, énumère l'universitaire. De vrais précurseurs, y compris en matière de gastronomie. Ils ont mélangé des céréales sauvages, ancêtres de l'orge et de l'avoine, et les ont broyés avec de l'eau pour faire un pain plat similaire au pita que les bédouins de la région fabriquent encore aujourd'hui. Le pain ne levait pas et cuisait à même les pierres chaudes. Mm-hmm. Les Natufiens n'en faisaient pas tous les jours, mais pour des occasions spéciales seulement. La possibilité qu'ils aient développé un penchant pour le pain et que cela les ait motivés à s'élancer dans l'agriculture mérite d'être soulevée. Pour confirmer leur hypothèse, Tobias Richter et son équipe vont poursuivre les fouilles entamées sur le site de Chubaïka et ça fera sans doute le sujet d'un article qui va venir dans les prochaines semaines ou les prochaines années.
Donc, un article que j'ai trouvé aussi sur le site lefigaro.fr, un article qui est écrit par Aurore Garreau et publié le 15 février. L'album perdu de Marvin Gaye, retrouvé un demi-siècle plus tard. Hein? C'est drôle, il me semble, depuis quelques années, on fait bien des découvertes comme ça.
Choses
perdues, que finalement, s'il y a un petit peu d'argent à faire, on va la sortir. Bon. Le label Motown a annoncé la sortie d'un album inédit du Prince de la Soul prévu le 29 mars. Avec une vingtaine de titres originaux et de versions alternatives, le chanteur et compositeur américain assassiné en 1984 ne s'arrêtera pas de nous faire danser de sitôt. Let's Get It On, What's Going On, Trouble Man, les sons de Marvin Gaye n'ont pas pris une ride. La sortie d'un nouvel album, 35 ans après la mort du chanteur, ne risque pas de mettre fin à son succès intemporel. Annoncé par le label de musique Motown Records, You're the Man sortira le 29 mars, 4 jours avant son 80e anniversaire. L'album perdu était resté dans les archives de la maison de disques pendant presque un demi-siècle. Il regroupera 17 chansons originales et versions alternatives, dont My Last Chance, retravaillée par Salam Remy, est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming. L'ancien collaborateur d'Amy Winehouse a aussi remixé I'd Give My Life For You, qui date de 1973, et Symphony, sorti dans l'album posthume Dream of a Lifetime en 1985. Enregistré entre ces deux succès What's Going On de 1971 et Let's Get It On de 1973, plusieurs de ces titres ont été découverts par le public dans des compilations posthumes, mais jamais regroupés avant aujourd'hui. Après l'échec commercial en 1972 du premier single « You're the Man », Marvin Gaye décide de ne pas sortir son album. Dans son titre, le prince de la soul critique les politiques et les hypocrites qui nous rendent fous et qui n'agissent pas pour lutter contre la misère du pays. C'est drôle, ça serait peut-être pertinent. Ça n'a pas changé beaucoup depuis. Le single éminemment engagé faisait référence à l'élection présidentielle de l'époque qui opposait Nixon et McGovern. Ce n'est pas le seul titre politique du chanteur qu'on pourra réécouter sur l'album posthume. « I Want to Come Home for Christmas » illustre les pensées d'un prisonnier de la guerre du Vietnam, désireux de rentrer chez lui et fêter Noël avec sa famille. Mmh. Assassiné par son père en 1984, c'est assez quand même wow. C'est triste cette histoire-là. Assassiné par son père en 1984, la veille de son 45e anniversaire, l'interprète du hit « Sexual Healing » a reçu de nombreuses récompenses posthumes comme le Grammy Lifetime Achievement Award. Lifetime, c'est le prix pour mm-hmm. l'œuvre. Comment on dirait ça en français? L'œuvre d'une vie, bon, ça se dit pas de même, là.
L'œuvre d'une vie.
Cas, pour son œuvre en général. Il fait partie du Panthéon du rock depuis 1987 aux côtés de la reine de la soul, Aretha Franklin. Son album What's Going On est classé 6e dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps du magazine Rolling Stone en 2003. Marvin Gaye a atteint le sommet de son art dans les années 1970 et pourrait bien être de retour dans le top des ventes 40 ans plus tard.
Marvin Gaye et le premier extrait de ce nouvel album, de ce vieil album,
c'est dur à dire. Album perdu retrouvé. My Last Compilation.
Chance. C'est très bien, ça capture l'essence musicale de 1972, comme la belle période Marvin Gaye, mais avec une sonorité qui n'est pas trop datée. Donc, ouais, effectivement. C'est bon travail.
Voilà. Et Serge, donc, on parle de pommes.
Oui, alors c'est un article qui est dans la revue Secrets d'Histoire, le numéro 20 de publié à l'automne 2018 de Françoise Surcouf. Qui n'a pas entendu l'expression "Eat an apple a day and keep the doctor away"? Manger une pomme par jour puis garder le docteur. Bon. Alors, bon, ça éloigne pas nécessairement le docteur, pas mais vraiment. C'est-à-dire que ben, c'est une bonne alimentation de fruits et de légumes qui est recommandée, puis ça aide à garder la santé. Alors, d'Adam et Ève à nos jours, la pomme est le fruit par excellence, chargé d'histoire et de symboles. Elle a traversé les âges et les mythologies. Elle est partout, dans l'art, la religion, le folklore ou la médecine. D'ailleurs, à Rome, le terme « pomum » signifiait simplement « arbre fruitier » en général, tant le fruit du pommier était apprécié.
Donc, n'importe quel fruit, c'était une pomme. Oui.
La pomme dès le néolithique. Apparue sur Terre il y a près de 100 millions d'années, la pomme poussait à l'état sauvage dans le sud du Caucase et la Chine. Savourée par l'homme dès le néolithique, elle gagne nos contrées à la faveur des réchauffements climatiques et des migrations. Dès l'Antiquité, Théophraste, célèbre botaniste grec, en distingue 6 espèces. Par la suite, les conquérants romains répandent sa culture dans l'Europe entière et créent une trentaine de variétés hybrides. 10 siècles plus tard, elles seront 50, répertoriées par l'agronome Olivier de Serres. Au 19e siècle, le pépiniériste André Leroy, n'en décrit pas moins de 527 différentes. Et aujourd'hui, la pomme se prévaut de posséder plus de 6000 variétés.
Oh, on ne peut pas toutes les trouver à l'épicerie.
Non, ouais. S'il y avait des actions qui se vendent, qu'on aurait pu acheter il y a une centaine d'années, ça aurait été un bon placement. Sacré fruit défendu. Le fruit de la connaissance est-il une pomme? Selon de nombreux théologiens, oui, des théologiens, là, oui. Il est certain que sa supposée présence au Jardin d'Éden a inspiré de multiples artistes et auteurs. D'aucuns prétendent qu'un morceau du fruit défendu avalé par Adam lui est resté en travers de la gorge, donnant son fameux nom à la pomme d'Adam.
Voilà. Visible... On est resté appris avec ça.
Oui, on la voit la vôtre.
Ouais, très bien.
Pomme d'Adam, oui. Visible uniquement chez les hommes, hein. Les femmes n'ont pas droit à la pomme d'Adam. Chez les Celtes aussi, la pomme qui provient de l'île d'Avalon. Aval signifie pomme en breton, donc Avalon, où reposerait le roi Arthur, est considérée comme un fruit de science et de révélation. Merlin enseigne d'ailleurs la magie sous les branches d'un pommier, qui est un arbre sacré. On savait tous ça.
Ben oui.
Des pommes historiques. Oui, pommes historiques.
Moi, je connais juste les pommes récentes.
Oui, mais une expérience, un britannique.
La pomme de Guillaume Tell.
De Guillaume Tell, oui, mais après ça, la pomme de Newton.
Qui l'a reçue sur la... Oui.
Alors, parmi les pommes célèbres, on compte bien sûr la pomme de Newton.
Mais finalement, la pomme voulait se faire pardonner le coup de Ève.
Justement.
C'est quelque chose du genre.
Oui, le physicien et philosophe anglais découvre la loi de l'attraction universelle alors qu'il fait une sieste sous un pommier et qu'un fruit lui tombe sur la tête.
D'ailleurs, le dessinateur Gottlieb a utilisé très souvent cette image-là.
Mais imaginez, je viens d'avoir une image, d'un coup un flash, comme on dit en bon québécois, imaginez que la pomme aurait été très grosse, elle l'aurait assommée ou qu'il aurait provoqué...
C'est ça qui est arrivé, il a peut-être divagué un peu.
Tu dis, ben là, on n'aurait jamais eu la théorie, tu sais.
Ah, aussi.
Les pommes d'or du jardin des Hespérides, 11e des 12 travaux d'Hercule, qui doit, pour les dérober, demander au géant Atlas d'aller les lui chercher en échange de quoi il s'offre à soutenir pour un temps la voûte céleste à sa place. Voilà, on est dans la grande mythologie. La pomme empoisonnée de Blanche-Neige?
Oui, aussi,
ben,
c'est
oui,
vrai.
Oui, c'était triste. La pomme de Guillaume Tell, héros de l'indépendance suisse, que le méchant Bailly Gessler impérial oblige à tirer sur le fruit placé sur la tête de son fils. Enfin, la terrible pomme de discorde que Paris offre à Aphrodite, déesse de l'amour, et qui l'aide alors à gagner le cœur d'Hélène, une romance qui déclenche la guerre de Troie. Ensuite, qui n'a pas entendu parler de la Big Apple?
Oui, ben oui.
New York. Une pomme bien juteuse. Le surnom Big Apple, qui désigne New York, apparaît pour la première fois sous la plume d'un journaliste en 1924. Il l'a entendu dans les écuries de la Nouvelle-Orléans, où les employés baptisent ainsi la grande cité de la côte Est. La ville possède alors les plus grands champs de course des États-Unis, et les prix qui remportent les participants de ces concours hippiques sont les plus importants. Les jockeys en parlent souvent en les nommant « apples », un vocable qui équivoque des pommes bien juteuses. Le surnom se popularise vite, bientôt repris par le milieu du jazz, qui voit lui aussi New York comme la capitale de la musique, là où chacun peut devenir riche.
C'est curieux quand même, parce qu'on entend souvent ça, Big Apple, mais on ne savait pas du tout d'où ça vient.
En terminant, quelques expressions reliées à la pomme. Mm-hmm. Un fruit si apprécié ne peut que générer des expressions populaires. Parmi les plus connues, « ma pomme », pour parler de soi. Mm-hmm. Une bonne pomme, désignant une personne naïve, que l'on trompe facilement. Tomber dans les pommes, qui vient sans doute de l'expression moyenâgeuse, tomber dans les palmes, du verbe se pâmer.
Donc ça n'a pas rapport avec le fruit,
non,
finalement.
C'est-à-dire perdre connaissance. Ouais. Ou d'une tournure berrichonne employée par George Sand dans une lettre où elle avoue être dans les pommes cuites, en l'occurrence fatiguée. Enfin, rappel de l'attrait qu'exerce le fruit, l'expression canadienne « chanter la pomme ».
Ah oui. Mais j'ai repensé à ce que vous aviez dit tantôt, puis une pomme par jour éloigne le médecin. Ça se pourrait-tu qu'on en ait trop mangé? Parce que là, les médecins, on a de la misère à aller les chercher. On ne veut pas les éloigner, on veut les avoir.
Alors, chanter la pomme, c'est un synonyme d'une chose très bien, là, il n'y a rien de mal. C'est compter fleurette.
Oui.
Alors voilà, on peut compter fleurette, ce n'est pas déplacé.
Ben, merci beaucoup, Serge. J'avais dit tantôt que je parlerais aussi d'un producteur très connu. Ça a été une bonne manne pour moi. Encore dans le Figaro.fr, un article paru le 14 février. Quincy Jones va donner un concert à Londres en hommage à Michael Jackson. Le pionnier du jazz sera sur la scène de l'O2. O2, c'est l'aréna célèbre à Londres. Dans la capitale anglaise, le 23 juin, pour un show exceptionnel, durant lequel un orchestre symphonique reprendra les trois albums qu'il a conçus avec le roi de la pop. Ce n'est pas un hasard, Quincy Jones était un collaborateur privilégié de Michael Jackson. Il a produit ses trois albums « Off the Wall » en 1979, « Thriller » en 1982 et « Bad » en 1987, qui ont à eux trois été écoulés à plus de 150 millions de copies. Quand même, hein? Et se sont imposés comme les disques pop les plus importants de tous les temps, constituant une liste incalculable de disques et de récompenses en platine. Le musicien qui a remporté 28 Grammy Awards a partagé son enthousiasme dans un tweet. « C'était un rêve absolu de présenter ces musiques en live », écrit-il. « J'espère que vous vous joindrez à moi en l'honneur de trois projets très spéciaux que j'ai produits et dont, je pense, vous avez peut-être déjà entendu parler. » Donc, le show aura lieu à l'O2 Arena de Londres le 23 juin prochain. Les tickets seront mis en vente le 15 février, donc c'était la semaine dernière, à 15h. Pour l'occasion, Jones a fait appel à un orchestre symphonique qui sera dirigé par Jules Bucklett lui-même pour interpréter le trio d'albums historiques du roi de la pop. Le spectacle présentera également des performances de la part de, on dit, des special guests ici, invités spéciaux, qui n'ont pas encore été dévoilés. Entre Michael Jackson et Quincy Jones, c'est une histoire de longue date. Leur rencontre a bouleversé l'industrie musicale. De cette collaboration tumultueuse mais fructueuse sont nés des tubes interplanétaires. Après quelques petits différends, le roi de la pop a tenté de se rabibocher avec celui qui avait fait sa gloire. En vain. Quincy Jones refuse toute nouvelle collaboration, allant même jusqu'à intenter un procès après le décès du roi de la pop pour droit d'auteur impayé sur le documentaire « This is it ». Un coût gagnant qui lui rapportera 9,4 millions de dollars. Quand même, c'est une poursuite qui valait la peine, finalement. Ce qui n'empêche pas le producteur de 85 ans de se lâcher dans une interview, au site Vulture. Jackson était aussi machiavélique que c'est possible de l'être. Lui qui accusait Michael Jackson de plagiat a décidé d'enterrer la hache de guerre et de rendre un bel hommage à celui qui fut son protégé dans les années 80.
Retour en 1962 avec Quincy Jones et Soul Bossa Nova, pièce qu'on a pu entendre à plusieurs endroits dans les médias. Un des souvenirs que j'ai, moi, c'est le thème de les films Austin Powers.
Austin Powers, absolument.
Et cette mélodie, est-ce que ça vous fait penser à une chanson de la francophonie? Une chanson qu'on connaît tous.
Moi, je pense à Les Cornichons de Nino Ferrer.
Ben, exactement. Ah! C'est exactement la même mélodie. Nino Ferrer a mis des mots sur ce thème-là. Et
quand même.
Les Cornichons.
Ouais, oui, Nino Ferrer. Faudrait sortir ça à un moment donné. C'était vraiment bon. C'était drôle. Donc, merci beaucoup, Jean-Sébastien. J'avais jamais fait le lien, mais en disant ça, effectivement, ça m'a... Mm-hmm.
Oui, j'ai un petit article, moi, sur, j'avoue, là, je suis vraiment une découverte, là, je ne savais pas que c'était ce nom-là, mais Kiwi qu'on dit?
Kiwi, oui, la lettre K,
traduit de W à Y. En 1964, Léon-Claude Duhamel, fabricant de pantalons à Roubaix, est en visite à Paris. Il pleut, comme ça arrive souvent à Paris. Pour tromper l'ennui, il observe le manège des passants depuis la terrasse du Café de la Paix. Des femmes encombrées par leur parapluie et des hommes qui courent en espérant passer entre les gouttes. Il sort son calepin et dessine un vêtement à capuche qu'on enfile par la tête. Plus tard, il fouille dans ses stocks et tombe sur du nylon enduit. Ça tombe bien, ce tissu est imperméable. Il baptise sa création en cas de pluie. Mm-hmm. Avant de la commercialiser, il fait appel à l'agence de pub Havas qui lui conseille d'américaniser le nom. Les Français sont forts sur ça. Tellement tendance, mais Duhamel tient à son en cas. Ils finissent par tomber d'accord, il faut garder le cas et ajouter oui. La route en anglais, kiwi est né.
Ah, voilà, que souvent les gens prononcent kiwi, mais qui n'a pas rapport.
Kiwi?
Kiwi. Ah, on a entendu souvent ça.
Ah,
ça
oui, pas kiwi, moi, les gens de ma génération, c'est un kiwi. C'est un pas kiwi. Un kiwi, c'est
voilà,
un kiwi.
Donc là, maintenant, vous connaissez l'explication, vous savez comment le prononcer. On vient d'apprendre des choses. Eh bien, c'est ce qui met fin à l'émission Les Voix de service du 20 février. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Serge Bradet. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Laliberté.
Merci à vous, Daniel.
Oui, bien, bienvenue. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec Isabelle Falardeau aussi. Donc, bonne journée à tout le monde.